世の中にはすぐわかるものとすぐわからないものの2種類がある。すぐにわからないものは長い時間をかけて少しずつわかってくる。
Haïku, tout court, la petite émission pour partager de la poésie. Bonjour et bienvenue dans Haïku tout court, la petite émission pour découvrir et partager ensemble les plus petits poèmes du monde, à savoir les haïkus. Il est temps de se dire au revoir, et oui, voilà, s'achève cette série d'émissions. Ces 30 épisodes avaient pour but de vous faire découvrir les différents aspects du haïku, de vous donner envie d'en lire, d'en écrire et d'en partager autour de vous. J'espère y être arrivé. Il ne s'agit en fait que d'un avant-goût. Mon but était de susciter votre curiosité avant de vous donner le frisson de la rencontre poétique personnelle avec ces poèmes. Je quitte l'émission avec cependant quelques petits regrets, ceux de ne pas vous avoir proposé d'interview de Jean Antonini, poète et longtemps président de l'Association francophone du haïku, de Valentin Felipeau, haïgine voyageur drômois, ou même de Dominique Chipot, traducteur et spécialiste du haïku, qui anime le site 100% haïku et qui publie aussi L'Ours dansant, un petit journal gratuit dont on a parlé dans une émission, qui publie haïkus écrits par des gens comme vous et moi. Je regrette aussi de ne pas avoir réalisé un micro-trottoir sur le haïku avec des enfants, avec des adultes, je pense que ça aurait été curieux et intéressant. Et je m'excuse pour vous, je m'excuse aussi pour mes mauvaises prononciations des noms des haïjins, que vous me pardonnerez, et même du vocabulaire du monde du haïku, parfois, voilà. Pour cette ultime émission, j'avais fait appel aux auditeurs pour qu'ils partagent leur propre haïku. A priori, ou je ne suis pas écouté, ou les auditeurs et auditrices n'écrivent pas de haïku, ou bien ils et elles sont trop timides. Je profite aussi de cette émission pour analyser un haïku que m'a envoyé en secret Olivier Houry, avec qui je joue actuellement à faire des rangas. Voilà, ces suites de haïkus dont on parlait dans les premières émissions. Vous vous souvenez ces suites de vers 5-7-5 et puis 7-7 à l'origine du haïku. Le haïku qui était d'ailleurs le premier poème proposé, qui s'appelait Oku. La boucle est donc bouclée. Olivier Houry est un auditeur avec qui j'ai fait connaissance grâce à la diffusion de cette émission sur Fréquence 7. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je partagerai avec vous mon dernier haïku pour vous faire découvrir comment je procède pour écrire. Pour cette dernière émission, découvrons donc le poème d'un auditeur. Début de printemps, sur la poussière d'asphalte, deux ombres d'oiseaux. Déjà, Olivier Houry commence par le kigo, le mot de saison, où cette fois la saison est explicitement nommée « début de printemps ». On le sait maintenant, le printemps, c'est vraiment le commencement de l'année, le renouvellement de toute chose, ce qui est renforcé par le mot « début » au début du poème. Dans le deuxième vers, sur la poussière d'asphalte, le poète joue sur le contraste avec le premier vers. La poussière est tout le contraire du début, c'est la saleté, la fin de toute chose. Ce qui est ancien est couvert de poussière. Tout comme l'asphalte évoque le bitume, la route. Personnellement, je trouve l'expression « poussière d'asphalte » un peu malheureuse, car j'ai du mal à me représenter et visualiser de la poussière d'asphalte. Je l'imagine d'emblée comme de la poussière sur l'asphalte. En tout cas, dans le poème, l'opposition entre poussière et printemps est un bel exemple de haïku par contraste. Le poète poursuit, heureusement aussi, avec deux ombres d'oiseaux, qui introduit un mouvement, ou, tout le moins, une image saisissante. Pour moi, le nombre donne toujours plus de réalité aux choses. On se figure mieux une scène, je trouve, si un nombre est inclus dedans. C'est un procédé dont j'use fréquemment. Ce que j'aime dans cette expression, c'est surtout le mot « ombre ». Dans la poésie japonaise, l'ombre ou la trace évoque la chose avec plus de force et de sensibilité que la chose elle-même. Une métonymie, en quelque sorte. Un élément vient évoquer, suggérer la chose. C'est un procédé, si l'on peut dire, fréquemment utilisé. Voilà le poème d'Olivier Houry en 5-7-5. Il est donc efficace, je le redonne pour le plaisir. Début de printemps, sur la poussière d'asphalte, deux ombres d'oiseaux. C'est un poème qui me fait penser à un très beau poème aussi de Valentin Felipeau, qui ne respecte pas d'ailleurs les 5-7-5, mais qui comporte bien 17 syllabes et est totalement dans l'esprit du haïku. Dans l'herbe foulée, quelques pépins de pommes, nos ombres déjà loin. Et maintenant, je vais partager avec vous mon dernier haïku. Oh, il n'est pas parfait. Et il vient même de changer ce matin une fois encore. Je vous donne la première version en vous expliquant comment elle a été produite, puis nous découvrirons celle de ce matin qui n'est sûrement pas encore la définitive. Où sont les nuages ? Un château fort en ruine sur la crête blanche. Commençons par ce que j'ai vu. Depuis le parc Jouvet, j'ai vu un matin la montagne de Crussol et les ruines qui en surplombent l'extrémité. Une fois l'aube passée et ses lumières plutôt jaunes et orangées, on peut voir une longue crête blanche éclairée très vivement, et le château l'est aussi. Dans mon cas, la lumière était très belle, et surtout des nuages sombres à l'arrière créaient un beau contraste. La première question que je me pose quand je vois quelque chose qui me touche ou me surprend, c'est « Cela mérite-t-il un poème ?» Dans ce cas, la réponse était oui, notamment parce que je voulais aussi vous décrire mon travail d'écriture. Pendant que j'essayais d'écrire ce haïku, comme toujours beaucoup de phrases et de mots sont apparus. Cela crée un champ lexical particulier au final. Nuages, silhouettes, dessines, calcaire, orage, Crussol, matin, ciel. Le vocabulaire est aussi important pour la précision de la vision que pour le décompte des syllabes. J'ai longtemps essayé d'ailleurs de glisser le mot silhouette pour bien montrer que la ruine se dessinait blanche sur un fond de nuages sombres, avant d'abandonner. Souvent, nous partons sur une idée et nous finissons par évoluer au gré des tentatives, que ce soit en raison du nombre de syllabes ou des mots qui apparaissent plus ou moins justes. Je n'ai pas mis Crussol, par exemple, car il n'est pas aussi connu que le mont Fuji, il me semble. Mais si je faisais un recueil local, évidemment, je pense que je privilégierais ce choix. Une expression comme « nuage d'orage » m'était venue, mais je la trouvais très malheureuse phonétiquement, et elle n'a donc pas été utilisée. Et je voulais aussi signifier que les nuages n'étaient que là-bas. Des expressions comme « par où vont les nuages ?»,« où s'en vont les nuages ?»,« d'où viennent les nuages ?» ont été tentées. Mais j'ai plutôt choisi une image statique qui n'indique pas leur mouvement, qu'il soit positif ou négatif, mais suggère qu'ils ne sont que là-bas. D'où l'expression « où sont les nuages ?» Il en découle que le reste du ciel est clair et que donc la lumière peut être projetée sur les crêtes, ce qui explique leur blancheur. Mais en ce cas, rien ne précise qu'ils sont sombres, ces nuages. Oui, rien d'explicite. Mais l'idée du contraste peut émerger dans un esprit habitué à la poésie japonaise, où, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le contraste est souvent un moteur en fait, de poésie. Dans l'expression « un château fort en ruine », c'est un vers pour lequel j'ai beaucoup travaillé. Pourquoi préciser « château fort » ? Parce qu'il serait aussi possible d'imaginer un beau château moderne, sur une crête. La précision « château fort » indique immédiatement une époque très ancienne, un certain type de fortification dont on peut se faire une représentation. En plus, cette expression me permet d'entrer dans mes sept syllabes en utilisant « ruine » sous la forme d'une diérèse. La diérèse, c'est quand on peut séparer une syllabe en deux, ce qui donne ici « ruine ». Ce qui permet d'insister sur un mot. Procédé que j'affectionne parce qu'il réduit le nombre de mots nécessaires dans un poème et surtout parce qu'il permet de créer un focus sur un mot important pour moi. Dans ce segment, le plus important reste tout de même « en ruine », un mot empreint de wabi-sabi. Vous savez cette beauté des choses anciennes ou usées, cette patine qui évoque aussi la fin des choses elles-mêmes. Cela permet aussi de ne pas imaginer un château majestueux. Sur la crête blanche est le vers qui ancre le poème. Il lui donne sa lumière. Au début, le poème se déroulait plus classiquement, comme une phrase dépliée, donc pas vraiment un poème. Sur la crête blanche, un château fort en ruine, où sont les nuages? Mais cela manquait de force. Toujours, quand je finis un de mes poèmes, l'écriture d'un de mes poèmes, je me demande s'il ne serait pas plus fort en inversant le premier et le dernier vers. Et j'avoue que ça marche souvent. Ici, l'inversion du premier et du troisième vers permet de créer plus d'ambiguïté sur la première phrase, « Où sont les nuages ?», qui peut ainsi s'entendre aussi comme une question ou comme une information. Et cela met plus en valeur la lumière à la fin du poème. Mais voilà que ce matin, alors que j'étais au parc, une envie m'a pris de mettre plus en avant la blancheur de la ruine et des falaises conjuguées. Et j'ai donc transformé le haïku en ceci. « Prolongeant les crêtes, ruine blanche du château, où sont les nuages ?» Je me méfie toujours de mon kigo ou de mon point d'ancrage, surtout si j'ai l'impression qu'il fonctionne très bien. Une belle expression peut nous emprisonner. Un haïku est un peu comme un tangramme. Plus on avance, moins il y a de solutions. et parfois il vaut mieux tout remettre à plat pour avoir l'esprit plus large et plus ouvert. J'espère que mes explications n'ont pas été trop confuses, je voulais juste montrer tout ce qui se joue en moi lorsque j'écris un haïku. Un si petit poème est souvent le résultat, même maladroit, de nombreuses, très nombreuses tentatives, de nombreux allers-retours, que l'on essaye de faire le plus consciemment possible. Et maintenant, j'ai choisi de partager avec vous trois haïkus d'été avec des lucioles, pour nous séparer avec un peu de lumière et de douceur. Il s'agit de poèmes de Otomo Oemaru, Oshima Ryota et Kobayashi Issa. À qui la poursuit, la luciole offre sa lumière. Poursuivie, la luciole s'abrite dans un rayon de lune. Sur ma manche, elle reprend son souffle, la luciole en fuite. Encore de beaux haïkus bien expressifs sur ce petit animal, tout petit insecte que l'on ne croise pas si souvent. Comme toujours, finissons cette émission par un petit exercice.
Écrire des poèmes, c'est chercher la beauté, comprenez-vous ? Dans ce qu'on a sous les yeux.
Alors pour cette émission, je vous propose tout simplement d'écrire un haïku où l'ombre d'un animal, d'un élément ou d'un végétal sera au cœur de votre texte. Voilà un petit exercice pour parler de choses sans les montrer. Bonne chance. Et je voudrais conclure cette émission en remerciant les radios qui ont accepté de diffuser cette émission. Sylvie, Clément, Sylvain et d'autres m'ont fait confiance et m'ont accompagné dans cette belle aventure. Parfois à la bourre, ni roi de la technique et de l'organisation, ils et elles ont toujours eu beaucoup de patience envers moi et ils ont toute ma reconnaissance. Tout comme vous d'ailleurs. Je vous remercie, auditeurs et auditrices de la première ou de la dernière heure, pour votre écoute et votre intérêt pour le haïku. Merci d'avoir écouté cette dernière émission. Adieu. Je vous souhaite de belles émotions et de beaux haïkus à écrire ou à lire par la suite, poétiquement vôtres.